C'est un petit événement que cette soirée-ci. En effet, aujourd'hui a lieu la séance d'ouverture de la saison 2016-2017 de la Société de philosophie de Bordeaux. Et nous recevons Francis Wolff, philosophe, et Carole Beffa, compositeur, autour de la question ou du sujet ce que nous fait la musique. Carole Beffa est compositeur et pianiste. Il est l'auteur, d'une part, d'un Giorgi Ligeti, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Également, avec Cédric Villani, il est l'auteur des coulisses de la création. Et également, est paru en édition papier, sa leçon inaugurale au Collège de France à l'automne 2012. De même qu'on peut accéder sur YouTube à ces 6 leçons au Collège de France à l'automne 2012 et janvier 2013. Carole Beffa est compositeur, fondamentalement. Il est aussi interprète, il est aussi improvisateur, et vous allez voir que c'est un esprit particulièrement brillant. Francis Wolff, lui, est philosophe. Il est professeur émérite à Normale Sup rue d'Ulm. Et un pan très important de sa bibliographie concerne ce que j'appellerais personnellement une anthropologie fondamentale, avec les ouvrages suivants: Dire le monde, ensuite Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, Pourquoi la musique ? Et enfin, qui vient juste de paraître, Il n'y a pas d'amour parfait. J'ai souhaité que nous nous entretenions tous les quatre. Étienne Benbenet, ici présent, qui est nouvellement donc nommé comme professeur de philosophie à Bordeaux-Montaigne. Moi-même, qui suis vice-président de la Société de philosophie de Bordeaux, Francis Wolff et Carole Beffa. Alors, nous allons poser tous les deux différentes questions. La première question que je voudrais la poser à Carole et lui demander ce que, à lui, compositeur, la musique lui fait.
Alors, je pense que la réponse pourrait être très très longue. Je vais essayer de la faire à peu près courte. D'abord, j'écoute assez peu de musique. J'en ai écouté énormément auparavant. J'en écoute un petit peu moins aujourd'hui. Ce qu'elle me fait, je pense que... Oui, je pense que elle, comme pour tout mélomane, j'essaye effectivement, quand j'entends de la musique, de la décrypter par le biais de ce qui s'apparente effectivement à des rapports de causalité entre les sons. Alors ces rapports de causalité, ils sont évidemment différents en fonction des musiques. Dans les musiques du XXe siècle, la causalité, quand on quitte ce qu'on appelle la tonalité fonctionnelle, eh bien, il est difficile de les percevoir. Il est encore plus difficile quand on quitte franchement encore le domaine de la tonalité au sens large. Or, j'écoute beaucoup de musique du XXe siècle et du XXIe siècle. Ce que me fait la musique, je pense que ce n'est pas très différent malgré tout de ce qu'elle fait à n'importe quel mélomane. Certaines musiques savantes, mais elles sont peu nombreuses, peuvent avoir un impact proprement physique, presque corporel, sur celui qui les écoute. Je pense d'ailleurs, sans entrer dans la polémique, que un des grands problèmes d'une certaine musique contemporaine, c'est qu'elle se refuse à faire quoi que ce soit au corps, ou qu'en tout cas elle ne parvient pas du tout, quand elle ne s'y refuse pas, tout simplement, à faire quoi que ce soit au corps. Et je dois dire que j'apprécie les musiques qui nous touchent, nous émeuvent et probablement nous font quelque chose de corporel.
Mais ma question, je ne voulais pas tellement mettre l'accent sur l'audition de la musique, mais sur le fait de composer de la musique. C'est au compositeur que je m'adressais. Qu'est-ce que la musique que vous composez, Carole, vous fait en la composant, en quelque sorte ?
Alors, pas grand-chose de différent peut-être de la musique que j'improvise. Si ce n'est que parce que quand on improvise de la musique, on n'a pas tellement droit au repentir. C'est comme si on travaillait avec un crayon, ou plutôt un stylo à encre de Chine et pas de gomme. Pas moyen de biffer ce qu'on a fait. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est une activité en fait assez solitaire, douloureuse, même assez souvent. Et j'ai beau normalement être assez heureux du fait que j'écris de la musique, que je vis de mon art, que je pourrais vivre de mon art, en réalité, composer de la musique, c'est une activité qui suppose beaucoup de souffrance. Ça n'est pas forcément lié à la musique elle-même, mais si vous me demandez ce que me fait le fait de composer, je dois reconnaître que je suis un petit peu masochiste parce que je persévère dans une activité qui pourtant ne me procure pas que du bonheur, loin de là.
Alors effectivement, dans votre livre de conversation avec Cédric Villani, il y a un chapitre que vous intitulez « Souffrance » au pluriel. Et ensuite, quand je vous ai écouté à Saint-Émilion le 28 mai dernier, interrogé par Hélène Lastéquer, là encore, j'ai été un peu étonné par l'insistance que vous avez mise à parler de souffrance, d'une certaine solitude du compositeur, voire même d'une mélancolie, alors que vous dites aussi que parmi les musiques que vous préférez, alors là je ne parle pas de l'activité de composition, mais il y a Mozart ou Mendelssohn, et la musique de Mendelssohn, moi j'adore Mozart et Mendelssohn, mais Mendelssohn, qui s'appelait Félix, peut-être ce n'était pas un hasard non plus, enfin, c'était un destin pour lui de s'appeler Félix, mais c'est une musique qui met en joie énormément. Alors, vous faites allusion à la solitude du compositeur et à une espèce de responsabilité pesante qui, en un sens, vous coupe des autres, mais en même temps, vous avez aussi besoin, un grand besoin, d'échanger avec les autres, que ce soit même au moment où vous composez, vous cherchez à communiquer avec d'autres compositeurs, et vous dites que c'est très difficile parce que c'est très compliqué d'échanger sur des ébauches de musique, sur des esquisses. Et en même temps, vous avez aussi un besoin de communiquer quand vous enseignez, que ce soit la musicologie ou que ce soit l'harmonie, et que vous aimez aussi énormément échanger avec le public aussi. Donc, chez vous, il y a un appétit très fort d'échange et en même temps, une souffrance lors de la composition. Or, il me semble que la musique, c'est fondamentalement un jeu et c'est une activité qui prolonge en un sens les jeux de l'enfance. Et il me semble, alors je parle en profane, moi je ne suis pas compositeur, mais alors bien sûr on parle du vertige de la page blanche, etc., etc., mais il me semble qu'il y a une joie profonde à créer.
Oui, il y a une joie profonde que vous rattachez à l'enfance, certainement. Enfin, créer, ça peut être, d'une certaine façon, composer de la musique, ça n'est pas autre chose que faire des mécanos sonores d'une façon pas très différente, effectivement, du jeu que l'on peut faire quand, enfant, on s'amuse à cela. Je pense que les deux ne sont pas contradictoires. C'est parce que la musique, dans l'activité de composition, supporte cette base de cette suppose cette part de solitude que, par compensation, les compositeurs peuvent ressentir la nécessité de s'ouvrir à d'autres, éventuellement de faire partager leur musique, même si tous les compositeurs ne le font pas, ou tous les compositeurs ne le font pas volontiers. Donc oui, je ne pense pas que ce soit contradictoire.
Mais ensuite, il y a l'œuvre aussi.
Oui, même l'écoute de ma propre musique ne met pas forcément en joie, loin de là. Chaque fois que... D'abord, avant la création, le compositeur peut avoir tendance à se focaliser sur les éventuelles imperfections de l'exécution, se demande si il n'aurait pas dû modifier telle ou telle chose, in extremis. Et même une fois qu'il croit que l'œuvre convient telle qu'elle est, il peut, encore une fois, se demander si le rendu sonore sera bien celui qu'il a voulu à l'occasion de telle ou telle exécution. Donc, même dans ces circonstances-là, ce n'est pas forcément un sentiment de bien-être qu'on éprouve.
Bien, je vais laisser la parole à Étienne.
Ça rigole pas, hein ?
Non, ça rigole pas.
Non, je voudrais revenir sur le geste au fond assez étonnant de Francis écrivant ce livre « Pourquoi la musique ?» Étonnant et audacieux au fond, c'est-à-dire la question est vraiment plus que fondamentale, c'est-à-dire sur un domaine totalement divers et ethnographiquement divers. Enfin, je veux dire, il tente la récapitulation, il tente le fondamental. Là, je vois sur l'écran le musical à l'état naissant, c'est-à-dire pourquoi la musique plutôt que rien ? Avec cette expérience de pensée, hein, une caverne purement sonore, et à quel moment advient du musical, c'est-à-dire un monde de la musique, un monde d'entités stabilisées qui font des notes, et puis ensuite des mélodies avec des notes qui se causent les unes les autres. Bon. Donc il y a un geste assez étonnant et qui produit des questions au fond très, très simples qui nous agitent sur la musique. Moi, tout ce que tu dis de l'émotion musicale m'a énormément touché, parce qu'il y a à la fois une espèce d'évidence de l'émotion, et vous l'avez bien montré tous les deux, une façon d'être pris par des atmosphères musicales ou des humeurs musicales sans qu'on sache en même temps les qualifier. C'est-à-dire que dès que tu tentes de qualifier les émotions musicales, on tombe sur une grande pauvreté d'émotions. C'est-à-dire quatre humeurs fondamentales, disons, de gaieté, de tristesse, de paix ou de colère, et puis c'est tout en quelque sorte. Et pourtant on voit bien qu'il y a un continent d'émotions derrière qui est là mais qui ne peut pas se dire. Et la question que je vais te poser, enfin, c'est une remarque que je voulais faire, c'est que là il me semble que ton ontologie, hein, ton geste fondamental sur la musique, produit des fruits. C'est-à-dire, tu as une réponse, et je voulais avoir confirmation de toi là-dessus, sur les émotions sont là, elles sont proliférantes, elles sont là de manière assez évidente sur un stand de musique, et en même temps, on ne peut pas les dire, on ne sait pas dire de quoi il s'agit, on ne peut pas les qualifier. Tu as une réponse précise qui est de l'ordre, en effet, d'une ontologie fondamentale, qui consiste à dire le monde de la musique est animé par une fonction vitale fondamentale, hein, c'est un monde d'événements purs, et les événements, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous surprend, ce qui nous émeut, ce qui nous touche, ce qui nous mobilise. Donc, de ce point de vue-là, l'émotion est partout dans la musique. Et en même temps, tu montres bien que le monde musical est un monde qui s'autonomise à l'égard de la fonction vitale, qui produit son propre monde rationnel avec des échelles tonales, modales, des timbres qu'on peut produire rationnellement avec des instruments, des rythmes. Bref, c'est un monde d'entités rationnelles, stabilisées, qui par ailleurs se causent les unes les autres, hein, les notes se causent les unes les autres. Bref, c'est un monde qui a son autonomie à l'égard de la fonction vitale. Et ça, tu le montres très bien. Si bien que ce monde-là, il ne se réfère plus à des entités réelles qu'on pourrait nommer. Ce sont des événements purs, des événements nous touchent, nous émeuvent, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas nommer l'origine de cette émotion, on ne peut pas dire ça, c'est ça, etc., parce que ce monde est un monde d'événements purs, sans substance, sans sujet qu'on peut nommer, qu'on peut désigner. Donc là, il y a une espèce d'ontologie très fondamentale, cette façon de dire, les images, par exemple, peignent des choses, des substances, la musique peint ou exprime ou dit des événements purs. Bon, on est dans du très fondamental, mais en même temps, ça produit quand même cette réponse, vraiment, moi, qui m'a énormément touché, une réponse très précise, que je trouve très pertinente, à cette idée, qu'est-ce que c'est que l'émotion musicale ? À la fois, c'est là et c'est partout, et en même temps, c'est très peu nommable, parce qu'en effet, il n'y a rien à nommer dans la musique. Il y a juste des événements. Donc, est-ce que tu irais dans ce sens ?
Merci Étienne de cette question qui parcourt en effet tout mon livre et sur laquelle j'ai travaillé dans la souffrance, puisqu'il est question de souffrance pendant des années. Et c'est vrai que Carole disait, il y a un interdit dans beaucoup de musique composée par les compositeurs du XXe ou du XXIe siècle, en tout cas de la deuxième partie du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est l'interdit du corps. Mais il y a aussi un interdit plus général, qui est l'interdit de l'émotion. Et s'il n'y avait pas d'émotion que nous cause la musique, je ne suis pas sûr qu'il y aurait de la musique. Si la musique n'avait pas d'effet sur les êtres humains. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je vais essayer de les prendre une par une et répondre de façon assez courte à chaque fois, puisque on pourra compléter par ce que j'ai pu écrire là-dessus. Premièrement, oui, c'est vrai, je me suis posé la question pourquoi la musique ? Et ça, c'est une démarche qui va à rebours de la plupart des grands travaux sur la musicologie, la philosophie de la musique, la théorie de la musique, etc. On a été dominé au XXe siècle, non seulement dans la musique par une certaine conception de la musique contemporaine, une certaine conception selon laquelle, au fond, la musique, ça n'existe pas. Il y a des musiques parce qu'il y a des cultures, et chaque culture a son mode d'expression, je ne dirais même pas musicale, puisqu'à une certaine époque, les ethnomusicologues nous interdisaient de prononcer le mot « musique ». La musique, pour beaucoup de cultures, pour beaucoup de peuples, est inséparable de la danse, du rite, de la religion, et parler de musique, c'était ethnocentrique, comme on disait. Bon. Alors, déjà, il y a un interdit qui pesait sur les études, sur la musique, de parler de la musique, et j'ai pris ce premier risque, en cherchant non pas ce qui était propre à chaque musique, et en essayant avec une culture qui n'est évidemment pas universelle, mais qui est assez large dans ses exemples, de trouver justement des universaux de la musique, en posant une question aussi simple, aussi triviale, peut-être aussi lourde que pourquoi, là où il y a de l'humanité, il y a de la musique et y a-t-il des universaux ? Le terme des universaux de la musique, c'était un interdit jusqu'à une quinzaine d'années. Alors, il y a une nouvelle science qui est apparue dans les pays anglo-saxons et qui allait à le rebours de l'ethnomusicologie qui nous interdisait de parler de la musique en général. Et c'était une science, c'est une science qui est au contraire un modèle naturaliste et qui nous disait ben, il y a des universaux parce que l'humanité est une et au fond, l'homme n'est qu'un animal et donc cherchons les universaux dans les théories évolutionnistes, y a-t-il pas de la musique chez les chimpanzés, etc. Il y a ce qu'on appelait la biomusicologie. Alors, voilà, j'ai essayé une troisième voie, c'est-à-dire chercher des universaux autant que possible dans les musiques variées du monde et pas dans leur origine naturaliste, etc. Bon, mais en me disant, après tout, il y a peut-être des universaux musicaux. Ça, c'est pour la première partie de ton... Alors maintenant, sur les émotions, en effet, parmi les parties de mon livre, il y en a une qui s'appelle « Ce que nous fait la musique, ce qu'elle nous fait au corps, ce qu'elle nous fait à l'esprit ». Et dans l'émotion, je suis à un moment parti de ce que j'appelle le paradoxe de Mendelssohn, qu'on peut dire de la façon suivante. Quand nous entendons une musique, nous avons l'impression que ça nous dit énormément de choses, mais nous ne savons pas dire ce que ça nous dit. Bon, très bien. Mais inversement, Mendelssohn nous dit, mais quand j'entends une musique, j'ai l'impression, au contraire, qu'elle me dit beaucoup plus de choses que ce que nous dit le langage. Et c'est vrai aussi. Alors évidemment, on peut renvoyer nos ados en disant, ben voilà, la musique, c'est un langage qui ne parle pas. Bon, les mots qui sont les nôtres et qui n'est pas du langage de l'émotion, de notre type d'émotion. Alors pour prendre l'exemple que tu as pris, que j'ai pris tout à l'heure, la musique gaie, la musique triste, etc., bien entendu, une musique triste, elle n'a pas pour effet de nous rendre tristes. Il y a déjà un paradoxe bien connu. Qu'est-ce qu'on appelle le paradoxe du plaisir tragique ? Je vais voir la tragédie, je souffre d'une certaine manière, mais pas comme Carole quand il compose. Quand je vais voir Bérénice, je pleure avec elle, mais il y a le délicieux plaisir des larmes. Bon. Alors déjà, il y a une première explication, c'est-à-dire que je peux participer à la tristesse de la musique. Je peux la comprendre, je peux d'une certaine manière l'éprouver, mais avec la distance que me donne l'attitude esthétique. Et si je vais dans ce sens-là, une musique triste ne ressemble, à part des généralités plates comme celles que j'ai dites tout à l'heure, c'est lent, c'est grave, etc., elle est unique en son espèce parce que la tristesse que j'entends en elle, elle est associée à un mode absolument propre, qui est l'émotion proprement esthétique que me donne cette musique. Et par conséquent, la fusion de l'émotion esthétique singulière de cette musique, qu'elle seule a me donnée, s'allie avec la tristesse générale, en ce sens que j'ai l'impression que c'est une tristesse absolument unique. Mais en tant que tristesse, elle est banale, en tant que tristesse. Mais en tant qu'elle est la tristesse de cette musique, elle est absolument unique. Et c'est cette fusion qui est une des premières entrées dans le mystère de l'émotion musicale, je crois.
Merci. Je peux poser une petite question à Carole. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une forme d'intellectualité au XXe siècle que tu connais bien, qui s'est imposée en musique. Et il y a parfois une revanche de l'émotion, en quelque sorte. Et je pensais, en t'écoutant, à ce qu'une certaine musique sérielle a pu donner au cinéma. Et c'est-à-dire une remarque que tu fais, Francis, à un moment, tu vois, Miklos Rosa, Hermann, etc., des compositeurs qui ont vraiment bénéficié de tout l'apport des Schoenberg, Berg, etc., et qui ont fait des choses extrêmement tendues dans l'angoisse, la frayeur, etc. Ça a produit des très forts effets cinématographiques, ces musiques-là. Les musiques hollywoodiennes sont des musiques qui sont très fortement atonales de ce point de vue-là, parce qu'elles produisent des grands effets. Et là, c'est une conséquence inattendue, finalement, de cette musique qui a quand même produit dans les 20 et 30 des musiciens qui produisaient des effets émotionnels très forts, là où on attendait une musique, au contraire, très intellectuelle. Et en tout cas, elle se donnait comme très fortement intellectuelle, non ?
Oui, je ne suis pas certain que ce soit effectivement les musiques sérielles ou même atonales qu'on associerait le plus volontiers à Hollywood. Hollywood, d'abord, je pense qu'il y a autant de compositeurs hollywoodiens qu'il y a de...
Non, mais je pense à, tu vois, Herman ou Miklos Rosa, par exemple, dans les films d'Hitchcock.
Oui, oui, alors, tu vois, mais Herman, c'est aussi bien la fameuse scène de la douche, effectivement, très atonale du point de vue auteur, mais extrêmement pulsée, hein. Rythmiquement, c'est d'une pulsation très, très marquée, très marquante, ce qui fait que... De tous les paramètres qui seraient là pour définir, on va dire, un ordre en musique, il n'y a que celui qu'il y ait auteur et à la dissonance qui est d'autant plus aiguë dans ce cas-là qu'on a affaire à des cordes dans l'extrême aigu, donc l'effet de dissonance va être encore plus marquant. Mais bon, Herman, les musiques de Vertigo sont assez ravelliennes. Bref, il n'y a pas que du. C'est pas que le continuateur du décaphonisme qu'est Herman quand il écrit des musiques de films. Et Miklos Rosa, c'est un peu la même chose. Concerto pour piano, qui est lié à certaines musiques. Bénure même, ce sont des musiques quand même avec de fortes polarités. C'est plutôt des compositeurs qui ont, parce que l'histoire les a rattrapés, les a évidemment contraints à s'exiler dans les années 30 aux États-Unis, ils ne sont pas les seuls. Korngold en fait partie aussi, par exemple, lorsqu'ils ont cherché dans leur musique écrite pour le concert, avant l'église, souvent, à explorer des chemins harmoniques. Assez neufs, eh bien, ont été un peu contraints malgré tout, pour certains d'entre eux, dans leur musique de film, à ne plus procéder à ce travail exploratoire et à se cantonner parfois à des musiques d'ambiance. Géniales musiques d'ambiance, évidemment. Et encore une fois, tous ne font pas la même chose. Korngold est d'une incroyable variété dans la musique de film qu'il écrit, comme les Herman, etc. Mais j'aurais tendance quand même à considérer que, d'abord, quant à Korngold et à son père, eux étaient des opposants farouches à la deuxième école de Vienne, à Schoenberg. Le père de Korngold, qui était un critique musical redouté viennois, avait la réputation d'être un ultra-conservateur en matière d'esthétique musicale. Et Korngold en a, d'une certaine façon, hérité.
Il y a des films quand même dans lesquels on a utilisé la musique atonale, Valhalla par exemple, et qui crée en effet, comme le disait Étienne, cet effet d'angoisse. Moi, ce qui me paraît caractéristique, je vais pas être long, c'est que dans certains effets émotionnels que peuvent nous donner certaines musiques atonales, ou celles qu'on peut même appeler, que j'appelle à certains moments, antitonales, précisément parce qu'elles cherchent à éviter tous les effets de tonalité, j'y trouve une espèce de confirmation par l'absurde d'une des thèses qui me guide, c'est-à-dire que la musique crée un monde d'événements reliés par des relations que nous imaginons causales. Il nous arrive, quand nous écoutons certaines pièces de Webern, par exemple, très courtes, d'avoir le sentiment que ce qui est exprimé, c'est la détresse d'un monde dans lequel a disparu toute relation de causalité. Et ça peut nous émouvoir, mais non pas en provoquant en nous l'émotion musicale, mais l'émotion du fait de, quelque sorte, nous entendons la musique disparaître d'elle-même. Voilà ce que je dirais.
Et il y a un très beau passage dans ton livre où tu lie ce que sont devenues ces relations causales dans une certaine musique atonale ou antitonale comme un rapport de logique qui serait celui non pas du monde éveillé, mais du rêve.
Morceaux de rêve éparpillés qui peuvent provoquer de temps en temps une espèce d'émerveillement et souvent plus facilement une angoisse.
Bien, on peut peut-être donner la parole au public si vous avez des questions inspirées par tout cela. Rosène.
Bonsoir. Si j'ai bien compris vos propos, Monsieur Wolf, vous avez dit que le son était un événement et qu'ensuite, il n'y avait pas de notes dans la nature. Alors, je pense...
Les oiseaux. Non.
Voilà, j'allais...
Voilà, les oiseaux.
Pourquoi le catalogue des oiseaux de Messiaen, alors?
Alors, il y a...
Et puis, il y a des événements silencieux.
Très bien. Un sourire, par exemple. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. D'abord, je n'ai pas dit que la musique ou que le son, c'était un événement, que c'était le signe d'un événement. C'est-à-dire, c'est la manière dont un événement se manifeste à notre système sensoriel. Bien entendu, vous avez raison, si nous sommes sourds, nous avons d'autres moyens, nous compensons d'une autre manière. Bien entendu, nous pouvons déceler un événement quand nous déclenchons un sourire qui se fait hors de nous et qui peut être aussi un événement et qui est silencieux. Tout à fait d'accord. Je parlais en termes très généraux et très globaux, pour l'être vivant, nous sommes dotés d'un système d'un avertissement, qui est un système d'avertissement qui est lié au fait qu'il y a du mouvement, puisqu'il n'y a pas de son sans mouvement. Il faut que ça vibre, il faut que ça se transmette. Et en gros, ça correspond à ce qu'on appelle des événements ou des actions hors de nous. Et si le monde était absolument immobile, éternel, ne bougeait, il n'y aurait rien à entendre. Bon, alors, évidemment, il y a toujours à la marge des événements peut-être silencieux, il n'y en a pas beaucoup. Et inversement, il peut y avoir des choses qui se manifestent d'une autre façon. Alors, les oiseaux. Les oiseaux, c'est en effet le contre-exemple qu'on dit toujours pour se demander s'il y a de la musique hors de l'humanité. Alors, vous savez, le chant des oiseaux, vous savez que les oiseaux ont un système qui leur permet de chanter, appelons ça chanter. C'est quelque chose qui est lié à leur nuptialité, qui est lié à la recherche du partenaire sexuel, à la reconnaissance de l'espèce aussi. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, notamment par Jacques Vauclair, sur le chant des oiseaux. Bon. Alors, nous l'entendons comme de la musique. Ça, c'est sûr. Pas toujours. Parfois, certaines fois, Rossignol, certains... Nous pouvons l'entendre comme de la musique parce que nous y entendons. Non pas nous ne sommes pas séduits sexuellement, nous ne sommes pas la femelle ou parfois le mâle de l'oiseau, mais nous l'entendons comme de la musique, exactement comme l'exemple que j'ai pris dans lequel nous pouvons entendre le train qui... crée un rythme régulier que nous entendons comme un rythme et donc comme musical, exactement comme nous pouvons entendre le chant des oiseaux. C'est-à-dire, nous l'entendons à condition d'être dans une attitude esthétique. C'est-à-dire, nous l'entendons faisant abstraction de quelle est sa fonction de ce son, à condition que je n'ai pas une oreille d'ornithologue. Ah, c'est quoi cet oiseau ? Je l'entends comme de la musique si je suis allongé sous un arbre et que j'entends 3, 4, 5 fois quelque chose qui m'évoque un air ou une mélodie ou un rythme, et je vais l'entendre comme de la musique. Maintenant, la question du catalogue des oiseaux de Messiaen, peut-être veux-tu répondre sur Messiaen, Carole. Messiaen a été en effet passionné par le chant des oiseaux, mais je pense qu'il a fait de la musique avec.
Messiaen était d'autant plus passionné par les oiseaux que... sur sa carte de visite, il mettait compositeur et ornithologue. Et il insistait beaucoup sur le fait qu'il était au moins... tout à fait. Et d'ailleurs, son grand traité est un traité de... dans lequel le titre admet cette mention de traité d'ornithologie. En plus de...
Il travaille avec Moncher, d'ailleurs, qui est en Rhône-Alpes, au sud
Oui, pas très loin de là où aujourd'hui on trouve le festival Messiaen, effectivement. D'abord, Messiaen, qui est un immense génie, je pense que je connais peu de gens dans cette salle qui voudraient bien écouter les 3 heures de musique du catalogue d'Oiseau à la suite. Je pense que malgré tout, c'est une musique limite. C'est-à-dire que ce n'est pas une. Ça peut être. Comment dire ?
C'est pas la symphonie de Corigali, là. Oui.
Non, c'est une musique qui est justement peut-être à la limite entre la musique du compositeur et la musique du spécialiste du chant des oiseaux. C'est-à-dire que dans cette volonté systématique qu'a Messiaen, toujours quand il s'occupe de mode à transposition limitée, quand il s'occupe de rythme, et là quand il s'occupe de chant d'oiseaux, d'essayer d'être le plus exhaustif possible, il touche peut-être à une des limites de l'appréciation esthétique que l'on peut porter sur cette œuvre. Encore une fois, en entendre quelques minutes, parce que rien n'empêche d'entendre un de ces chants d'oiseaux qui peut durer entre une trentaine de secondes et 4-5 minutes. Très bien. Entendre la totalité à la suite, c'est peut-être difficile, et il n'est même pas certain que c'est ce qu'envisageait Messiaen. Et quant à moi, je les préfère on va dire revêtu de cette parure instrumentale ou orchestrale qu'il peut y avoir dans Couleurs de la Cité Céleste, dans Oiseaux Exotiques, dans Saint-François d'Assise, où l'orchestre aidant, on a un tout petit peu moins ce sentiment d'uniformité qui tiendrait au fait que, encore une fois, 3 heures de musique dans la même direction, c'est pas forcément la chose la plus accessible qui soit.
Il est frustrant de s'interrompre après avoir écouté Carole Beffa et Francis Wolff. Merci à tous.